Il est 13h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. Dans un instant, une demi-heure donc à suivre sur le continent européen. On va notamment parler de l'Agence spatiale européenne qui fête ses 50 ans aujourd'hui. Quel bilan et quel défi pour l'avenir ? Réponse dans un instant. Et puis dans une demi-heure, ce sera le Grand Journal international. Bonjour Olivier Sherman.
Bonjour Clotilde Dumay.
Avec pour commencer un point sur l'éventuelle trêve à Gaza.
Oui, un espoir de trêve qui est encore loin de voir le jour. Le Hamas a rejeté hier soir la proposition américaine de cesser le feu à Gaza. Une proposition pourtant acceptée par Israël. Tous les détails sur cette possible trêve dans le journal.
Nous analyserons ensuite la situation en Syrie et la première attaque revendiquée du groupe État islamique contre les nouvelles forces gouvernementales, une offensive qui n'intervient pas par hasard, on le verra.
Et puis nous verrons que les annonces américaines sur la suspension possible de visa pour certains étudiants chinois sont fermement condamnées par Pékin. Washington va scruter les informations publiées par les étudiants sur les réseaux sociaux des 5 dernières années. Des étudiants chinois inquiets pour leur avenir. Certains ne pourront pas aller étudier aux États-Unis. Enfin, nous terminerons en musique avec la chanteuse et guitariste franco-allemande Sun, l'un des nouveaux visages du rock français. Sun vient de sortir son premier album, Crystal Metal, du rock bien dur.
Et rendez-vous donc à midi en temps universel, 14h, heure de Paris.
RFI, l'Europe à midi.
Et d'abord, l'impatience des fans de football et en particulier de deux clubs, le PSG face à l'Inter Milan. C'est l'affiche de la finale de Ligue des Champions prévue demain à Munich. Les Parisiens qui rêvent de ramener pour la première fois la coupe aux grandes oreilles face à un club italien historique au palmarès déjà bien rempli. Reportage à Milan de Cédric de Oliveira.
Maillot bleu roi et noir fièrement porté, casquette Nerazzurri sur la tête, Mario affiche clairement ses couleurs. Pour lui, c'est l'Inter Milan et rien d'autre.
Parce que c'est la plus grande équipe d'Italie. Je suis fan de l'Inter depuis que je suis petit. C'est l'équipe de mon cœur.
À côté de lui, Michele s'est même tatoué l'écusson de l'Inter sur l'avant-bras. Fan depuis toujours, il ne veut surtout pas que l'on confonde avec le Milan AC, l'autre club de la ville.
Oui, c'est l'équipe la plus importante de Milan. Depuis que je suis enfant, je soutiens l'Inter, comme toute ma famille. Mon père, ma mère, mes oncles. Et puis c'est une passion. Une fois que vous commencez à l'encourager, vous ne pouvez plus vous arrêter. Il n'y a que l'Inter à Milan.
Créé il y a bien longtemps, en 1908, le club provient d'une scission au sein du Milan AC qui ne voulait pas accueillir de joueurs étrangers à l'époque. Les dissidents lui ont donné un nom, International. Et aujourd'hui, les deux rivaux se partagent la suprématie de la ville et même leur stade. Mais depuis quelques années, ce sont bien les Nerazzurri qui sont au-dessus. Comme l'explique Alfio Mousmara, il est journaliste pour Antena 3, une chaîne de télé lombarde.
Bien sûr qu'il y a une grande rivalité, mais aujourd'hui, l'Inter est dans un cercle vertueux avec plus de continuité, plus de victoires. Aujourd'hui, sur le papier, il n'y a pas photo, c'est une équipe nettement supérieure au Milan AC.
7 trophées en 4 ans et l'image d'une équipe généreuse et combative, guidée par son capitaine, l'Argentin Lautaro Martinez. Et l'Inter s'est donc hissé en finale de la Ligue des Champions, après avoir notamment écarté le Bayern Munich et le Barça, au cours d'une confrontation qui restera dans les annales de la compétition. Arrivé il y a 4 ans, l'entraîneur Simone Inzaghi a façonné un groupe qui n'abdique jamais et ça pourrait servir face au PSG.
Il cuore sera...
C'est évident, on joue avec le cœur. C'est déterminant dans notre équipe et ça sera un aspect important du match. Et mon équipe l'a souvent montré ces dernières années. Ce qui fait qu'en tant qu'entraîneur, je suis très fier de guider un groupe comme celui-là. On sait quoi faire. On a joué 2 finales en 3 ans et je ne pense pas que cela soit arrivé avant dans l'histoire du club. C'est sûr qu'il faudra un grand Inter de Milan pour gagner ce match.
Le club milanais a le plus vieil effectif de la compétition, près de 30 ans de moyenne d'âge, mais beaucoup ont donc déjà disputé une finale. Un atout peut-être déterminant.
Ils ont déjà joué une finale contre Manchester City il y a 2 ans et ils avaient réussi à faire jeu égal contre une équipe qui a dépensé beaucoup d'argent. 2 ans après, ils sont de retour en finale et ça pourrait être une belle revanche pour tout ce groupe de joueurs.
Cette finale ressemble donc à un dernier défi pour la bande à Simone Inzaghi. Si elle atteint son objectif, ce serait la 4e Ligue des Champions dans l'histoire du club, la première depuis 2010. Cédric de Oliveira, de retour de Milan, RFI.
Voilà, l'Inter Milan face au PSG, finale de la Ligue des Champions demain. Ce sera évidemment à vivre sur RFI à partir de 18h40 en temps universel. Alors qui va l'emporter ? Évidemment, c'est assez difficile à dire. Encore que, du côté des bookmakers, en France comme à l'étranger, d'ailleurs, la tendance des paris sportifs anticipe plutôt une victoire des Parisiens. Même constat du côté des super ordinateurs et des programmes d'intelligence artificielle qui tournent actuellement à plein régime. Bonjour Dominique Dezonnet.
Bonjour Clotilde.
Tous affichent effectivement, à quelques exceptions près, des prédictions identiques.
Oui, et il est plaisant de remarquer que cette frénésie divinatoire numérique reprend les modèles prédictifs des IA génératives déjà employés à l'occasion de l'élection du pape Léon XIV ou pour annoncer le nom du candidat victorieux à l'Eurovision. Toutefois, au risque de décevoir plus d'un internaute, rappelons que la plupart de ces programmes sophistiqués ont échoué à deviner quoi que ce soit. Mais une fois encore, la pensée magique qui nous habite tous se reporte sur les divinités artificielles pour prédire qui obtiendra la victoire demain entre le PSG et l'Inter Milan. Le cabinet indépendant français Avisia, spécialiste du conseil en intelligence artificielle pour les entreprises, prévoit la victoire du Paris Saint-Germain avec une probabilité d'environ 62% contre 37% pour l'Inter Milan. Cette prédiction a été réalisée sur la base d'une modélisation boostée à l'IA et entraînée sur le système Player Index qui collecte depuis cette saison les données de 61 ligues européennes issues de 28 pays différents, précise le site de l'entreprise.
Et le cabinet va même plus loin, hein, Dominique, en prédisant un score de 2-1 en faveur du PSG.
Effectivement, des prédictions qui sont détaillées à l'extrême en annonçant par exemple les buts d'Ousmane Dembélé et Gonzalo Ramos pour le PSG, ainsi que un but pour Lautaro Martinez, évoluant au poste d'attaquant à l'Inter Milan. D'autres spécialistes de la donnée sportive comme l'enseigne Opta qui a délivré tout au long de la saison européenne ses prédictions en réalisant 10 000 simulations sur son super ordinateur, affiche aussi la victoire du PSG, mais en réduisant l'écart des chances de l'emporter entre les deux formations.
Et les IA grand public, comme par exemple ChatGPT, Gemini, Grok, Meta ou encore DeepSeek, disent la même chose.
Oui, tous ces programmes anticipent que le PSG va l'emporter en décrivant avec force détail la rencontre. Certaines IA pressentent que cette victoire interviendra après une prolongation, d'autres lors de tirs au but. Toutefois, ces prédictions générées par IA sont évidemment à prendre avec des pincettes, car le foot n'est pas et ne sera jamais une science exacte, et c'est tant mieux. La finale de la Ligue des Champions préservera ainsi la ferveur et l'émotion des supporters et des internautes jusqu'à la dernière minute en partageant en direct ce grand moment de frisson. Certains d'entre eux endureront les affres de la défaite, les autres vivront l'allégresse de la victoire. Du PSG, évidemment, sans vouloir être trop chauvin.
Dominique Dezonnet pour Un Monde de Tech. Vous aussi, c'était votre dernier grand frisson, votre dernier match, hein, votre dernière chronique à l'antenne. 34 ans tout de même passés à RFI, hein, avec vous. C'est vrai
avec plaisir.
Et on a suivi, vous nous avez fait, c'est vrai, suivre toutes ces nouvelles technologies, toutes les évolutions de ce milieu, les dernières découvertes scientifiques aussi, avec vos différentes émissions, vos chroniques, pour les citer, le magazine du net, le magazine du multi. Multimédia, le tour des réseaux, le tour du net, nouvelles technologies, et puis donc Un Monde de Tech. Merci beaucoup à vous Dominique Dezonnet. Pas besoin d'intelligence artificielle a priori pour vous prédire le meilleur pour la suite, pour vous, pour votre nouvelle vie, la prochaine.
Absolument, et c'est toujours émouvant en fait.
Pour tout le monde. Tout le monde en tout cas, une pensée pour vous. Merci encore Dominique.
RFI, l'Europe à midi.
Nous sommes à J-2 avant le second tour de l'élection présidentielle en Pologne, avec une issue toujours très incertaine, hein, entre le maire pro-européen de Varsovie, Rafał Trzaskowski, et le nationaliste Karol Nawrocki. Scrutin capital pour le pays dans le contexte international actuel. La Pologne, qui veut d'ailleurs s'affirmer comme l'un des piliers de l'industrie de défense européenne pour réduire la dépendance de l'UE envers les États-Unis. 150 milliards d'euros pourraient être débloqués dès cet hiver pour l'achat en commun d'armement. Une enveloppe qui devrait bénéficier aux entreprises européennes et parmi elles donc les start-up polonaises qui ont pour l'instant du mal à se faire une place dans la cour des grands. Reportage d'Agnieszka Kumor.
Quelque part dans la banlieue de Varsovie, Tomasz Kozieniowski fait voler un drone avec précaution. Un expert militaire ukrainien doit le tester tout à l'heure. Nous n'en saurons pas plus, sauf le fait que le logiciel de vol utilisé par ce prototype a été fabriqué par la start-up de Tomasz.
J'ai fondé ma première start-up CodeQuest il y a 15 ans. Depuis 6 mois, j'en ai lancé une nouvelle, Quantum Quest. Mon objectif est de contribuer à un renforcement de la souveraineté technologique de la Pologne. Nos systèmes de pilotage automatique servent de cerveau à tout type de drones capables de voler ou de naviguer sous l'eau. Il s'agit de drones de dernière génération avec la caméra embarquée qui, grâce à l'intelligence artificielle, analyse et transmet des images. Et ce, à des fins civiles, mais aussi évidemment militaires.
Cette société n'est pas encore bénéficiaire. Le chef d'entreprise passionné mise sur le programme lancé par le ministère de la Défense et le groupe public polonais d'armement Polska Grupa Zbrojeniowa, qui a pour mission de faire coopérer des entreprises privées, l'État et l'armée. Problème, selon Maciej Miłosz, journaliste au quotidien Rzeczpospolita. Les start-up ont du mal à se faire une place dans la cour des grands. Elles ne sont pas suffisamment aidées par le pouvoir public en Pologne.
Nous ne savons pas comment transformer nos start-up en multinationales. Et ce sont les autres qui s'en chargent à notre place. Par exemple, cette société fondée en Pologne et développée en Finlande, le groupe ICEYE. Il fabrique aujourd'hui des satellites d'observation au niveau européen. Alors que le ministère de la Défense polonais martèle qu'il faut miser sur l'innovation, l'armée polonaise continue de passer des commandes d'achat auprès de gros industriels traditionnels. Il faudrait moins de discours et plus d'actions concrètes.
Le système d'homologation est fastidieux et prend des années, abonde Marek Budzisz, consultant dans le domaine de la défense.
Il faut revoir tout le processus. Le système actuel ne permet pas, par exemple, d'utiliser des armes de toute dernière génération, alors que la situation en Ukraine nous apprend que le progrès technologique est le nerf de cette guerre. Ce sont les start-up qui proposent des solutions révolutionnaires, comme l'intelligence artificielle. Si l'Europe se laisse doubler par la concurrence américaine, chinoise, russe, ukrainienne ou encore israélienne, elle perd les guerres du futur qui seront menées aussi dans l'espace. Nous devons nous doter d'un système d'achat d'armement adapté à cette nouvelle réalité.
Dans la banlieue de Varsovie, le chef d'entreprise, Tomasz Kozieniowski, veut rester optimiste.
Ça bouge, mais encore trop lentement par rapport à la situation actuelle.
Le PDG l'affirme, les Suédois seraient intéressés par son prototype.
Le reportage d'Agnieszka Kumor à retrouver sur notre site internet RFI.fr.
RFI, les voix du monde.
Allez, on va prendre un peu de hauteur à présent pour célébrer l'anniversaire d'une institution. L'Agence spatiale européenne fête aujourd'hui ses 50 ans. L'ESA, créée donc dans les années 70 en pleine guerre froide entre les États-Unis et l'URSS. Aujourd'hui encore, les Européens doivent trouver leur voie entre les Américains et puis de nouveaux concurrents. Bonjour Nathalie Tingeot.
Bonjour.
Chargée des relations extérieures et chef du projet Histoire à l'ESA. D'abord, qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces 50 ans d'existence, Nathalie Tingeot? Quels sont les moments, les avancées, les missions qui, pour vous, ont marqué l'histoire de l'Agence spatiale européenne?
Alors, l'Agence spatiale européenne, d'abord, ce qui est important de rappeler, c'est qu'elle a commencé comme une aventure scientifique, contrairement aux Américains et aux Russes qui étaient dans une compétition de prestige. La voie de l'Europe était celle de la science. Donc, en s'engageant sur cette voie, on a produit à peu près une centaine de missions et les applications utiles, ce qu'on appelle les applications utiles, c'est-à-dire que la quarantaine de satellites qu'utilisent tout citoyen européen du matin au soir, comme la météo par exemple, les applications sont venues un peu plus tardivement et le mandat de l'ESA s'est élargi progressivement. Moi, ce que je retiens des grandes missions qu'on a faites, c'est par exemple d'atterrir sur Titan avec la mission Huygens, d'atterrir avec Rosetta et Philae sur une comète, et puis comme je le disais, tous les grands programmes de Météosat, les programmes de navigation, les programmes d'observation de la Terre, Voilà, une très grande variété de programmes pour l'ESA et aujourd'hui une plus grande sensibilité à la fois à la protection de l'environnement sur Terre et dans l'espace, qui est vraiment une clé aujourd'hui de lecture du programme spatial européen.
Dans les domaines que vous venez de citer, Nathalie Tingeau, on sent effectivement que l'Agence spatiale européenne a une certaine avancée. En revanche, est-ce qu'elle a un petit peu plus de retard, par exemple, dans tout ce qui concerne le vol habité?
Alors, on
et peut-être rappeler rapidement ce que c'est que le vol habité pour les auditeurs.
Bien sûr. Donc dans le transport spatial, il y a du transport spatial qui n'est pas habité. C'est ce qu'on appelle le cargo. Quand on ravitaille avec l'ATV, qui est un programme ESA, la station spatiale, c'est du cargo. Quand on met des astronautes à l'intérieur d'une capsule ou d'un avion spatial, c'est du vol habité. Donc, l'Europe a failli avoir son propre avion spatial avec Hermès dans les années 90. Elle y a finalement renoncé. Et pourquoi ? Parce qu'elle a choisi d'avoir un programme large, qu'on ne peut pas tout financer, et qu'il était possible à l'époque de voler soit avec les Américains, soit avec les Russes. Et ce qu'on a fait, puisqu'il y a une cinquantaine d'astronautes européens qui ont volé avec les uns, avec les autres, ou des fois avec les deux. Je dirais que la meilleure explication à ce renoncement, c'est la légitimité de l'époque, comme disait le philosophe Aron. C'est-à-dire que c'est des programmes qui sont coûteux. Et si un programme peut être perçu comme illégitime dans nos sociétés européennes, c'est pas le moment de l'engager. La situation peut évoluer aujourd'hui, notamment avec les partenariats qui évoluent. Si aujourd'hui on estime qu'on n'a plus la garantie d'accès au vol habité avec nos partenaires, on peut s'engager nous-mêmes vers un vol habité, pour peu qu'il soit financé par nos États membres.
Quand vous parlez de partenaires, évidemment, vous parlez essentiellement des Américains. C'est vrai qu'avec le retour de Donald Trump au pouvoir, ça devient plus compliqué de miser sur les États-Unis.
Alors, je dirais que c'est pas nouveau, parce que il est arrivé dans l'histoire plusieurs fois qu'on soit abandonné soit par nos partenaires américains, soit par nos partenaires russes. Les Américains sont soumis à un vote annuel du Congrès. C'est pour ça aussi qu'ils prennent l'Agence spatiale européenne comme partenaire. Ça permet de dire au Congrès, on a une coopération avec les Européens, on peut pas abandonner ce programme. Parce que finalement, la première chose qu'on abandonne, c'est le programme de la NASA ou le programme des Américains. Donc ils défendent leur programme, en défendant leur programme, ils défendent nos coopérations. On est en train d'évaluer actuellement les effets que pourrait avoir une réduction du programme américain sur les programmes en coopération. C'est un exercice en cours, c'est pas très clair pour nous quelles sont les conséquences du nouveau budget qui a été proposé par la Maison Blanche. Et en même temps, on essaye de bâtir des briques technologiques pour une plus grande indépendance de notre côté, comme je le disais tout à l'heure.
Est-ce que c'est l'occasion, pour terminer rapidement, Nathalie Tingeau, pour l'Europe, eh bien, d'avoir une nouvelle place dans l'espace, peut-être aussi de faire face à d'autres concurrents comme la Chine ou l'Inde aujourd'hui ?
Oui, absolument. D'ailleurs, on a une ministérielle en novembre cette année. On va proposer un programme plus ambitieux. On peut juste espérer qu'effectivement nos États membres s'unissent une nouvelle fois, 50 ans après, pour définir un programme très ambitieux qui nous rendra moins dépendants de nos partenaires étrangers.
Merci beaucoup Nathalie Tingeau d'avoir été avec nous sur RFI. Je rappelle que vous êtes chargée des relations extérieures et chef du projet Histoire à l'Agence spatiale européenne. Merci beaucoup. On revient sur Terre. Il est 13h49 à Paris. Lui dirige la principale organisation de défense des droits de l'homme en Europe. Il est habituellement discret, mais il s'est fait entendre la semaine dernière. Alain Berset est notre Européen de la semaine sur RFI. Bonjour Julien Chavannes.
Bonjour.
Le secrétaire général du Conseil de l'Europe qui a fait la une des médias il y a quelques jours pour avoir riposté aux pays européens qui aimeraient avoir les mains libres sur leur politique migratoire.
Oui, Alain Berset a dit stop. Dans un communiqué, il a rappelé à l'Italie, au Danemark, à la Pologne ou encore à l'Estonie que la Cour européenne des droits de l'homme était sacrée. Alain Berset est monté au filet pour réaffirmer l'indépendance de la plus haute juridiction de l'UE. Et ça n'a pas étonné Richard Verli. Il est le correspondant en France du quotidien suisse Blick.
Il est comme ça. Lors de son long passage au Conseil fédéral suisse, il s'est toujours singularisé d'une part par une voix forte, c'est-à-dire par sa capacité à prendre ses responsabilités et à les assumer. Et la deuxième chose, c'est un homme de valeur. C'est un homme qui est socialiste, ne l'oublions pas. Et pour lui, les conventions internationales, le multilatéralisme, l'ordre international sont des choses qui doivent être défendues. Donc je ne suis pas surpris qu'il ait pris cette position.
Alors on vient de l'entendre, hein, Julien Alain Berset a présidé la Confédération helvétique jusqu'à la fin de l'année 2023. Qu'est-ce qu'il a laissé de son passage ?
Plutôt un bon bilan aux yeux de Pascal Scarini, professeur de sciences politiques à l'Université de Genève.
Il s'est imposé comme un des personnages forts de ce gouvernement collégial qui comporte 7 membres. Il est entré très jeune, d'ailleurs il a commencé très jeune sa carrière politique et il a été vraiment un personnage constant dans l'exécutif suisse. Pas flamboyant, mais pas populiste non plus, plutôt rigoureux, pragmatique. Et je crois que ce qui a marqué beaucoup son mandat, c'est la crise du Covid-19.
Et pendant cette crise sanitaire, il était ministre de la Santé. Il a marqué les esprits, notamment avec cette petite phrase sur la durée du confinement prononcée lors d'une conférence de presse.
Nous souhaitons donc agir aussi vite que possible, mais aussi lentement que nécessaire.
La maxime est devenue virale, jusqu'à devenir un slogan sur des t-shirts ou encore des drapeaux.
Alors justement, comment est-ce qu'Alain Berset a finalement géré cette crise du Covid ?
Il a su tenir tête aux cantons attachés à leurs prérogatives, avec le bon ton selon le professeur Pascal Schiarini.
Il a vraiment assuré un peu un rôle de bon papa de la nation, à la fois tout à fait humble, sincère, authentique, mais très rassurant. Ça, je pense que c'est vraiment son principal fait d'armes.
Le journaliste Richard Verly, lui, retient les réformes sociales pour lesquelles il n'a pas hésité à aller contre son propre camp.
Il reste celui qui a, tout en étant un élu socialiste, accepté les différentes réformes, notamment de l'assurance maladie, de la retraite, des réformes qui touchent. Donc c'est un socialiste qui, à l'échelle européenne, est tout à fait pragmatique en termes budgétaires.
Alors on peut tout de même noter, Julien, un parcours émaillé de quelques scandales.
Oui, c'est vrai. À la fin de son mandat, à la tête de la Confédération, Alain Berset a été victime d'une tentative de chantage exercée par une ancienne maîtresse. C'est un cas rare en Suisse, rappelle Richard Verly.
Il est l'un des rares politiciens suisses de haut niveau qui ait provoqué quelques polémiques pour sa vie personnelle, notamment parce qu'il a utilisé des véhicules de fonction pour rendre visite à une compagne à une époque de sa vie. C'est quelqu'un qui clairement a pris la lumière aussi sur le plan personnel, à tel point de vue qu'il a fallu sécuriser la maison familiale à Fribourg, ce qui est assez rare en Suisse.
Alors malgré ses casseroles, hein, Alain Berset est resté populaire, tempère le chercheur Pascal Schiarini.
Les sondages qui ont été faits à son sujet ont montré qu'il restait tout à fait populaire auprès d'une majorité de la population. Et arriver à un tel soutien majoritaire dans le pays, je crois, démontre qu'il a vraiment été apprécié pendant son mandat.
Et en dehors de la politique, qu'est-ce qu'on sait de sa vie privée ?
Alors il a 53 ans, crâne rasé, sourcils broussailleux, costume impeccable, marié, père de 3 enfants, il est accessible, vous pouvez le croiser faire ses courses. C'est un ancien jeune champion d'athlétisme, mais surtout passionné d'aviation. Il pilote sur son temps libre, parfois un peu trop librement. En juillet 2022, il a été intercepté par 2 rafales français pour avoir survolé une base militaire.
Et quand il va quitter le Conseil de l'Europe, qu'est-ce qu'il pourrait faire à Alain Berset ?
Alors les personnes que j'ai appelé ont quelques idées. Pourquoi pas siéger au conseil d'administration de plusieurs grandes entreprises ou bien encore diriger une institution internationale comme une agence de l'ONU.
Alain Berset, donc l'Européen de la semaine sur RFI. Merci beaucoup Julien Chavanne. Auteur de plusieurs livres, il est pour la première fois traduit en français avec son roman intitulé « La fin du Sahara », c'est aux éditions Gallimard, une fiction qui se déroule dans le sud de l'Algérie à l'automne 1988, en amont des émeutes et de la répression dans le pays. Un retour sur l'histoire occultée, sur fond de féminicide. L'écrivain algérien Saïd Katibi est au micro de Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Saïd Katibi.
Bonjour Catherine.
Est-ce que vous voulez bien nous dire en quoi la période de septembre-octobre 1988 en Algérie est un moment clé dans l'histoire du pays ?
En fait, tout ce que l'Algérie traverse aujourd'hui comme histoire, tout ce qu'on connaît de l'Algérie aujourd'hui, trouve bien possède sa source dans le 5 octobre 1988. Ce jour-là, des milliers de gens, de jeunes, vont sortir dans la rue protester contre le parti unique. Et puis, il y aura un drame, il y aura une tragédie des centaines de morts. Le plus jeune, il avait 14 ans. Ils étaient des gosses, des enfants tués dans la rue. Les gens sont sortis protester contre le parti unique, chercher la liberté, liberté d'expression, de vivre. Il y avait plein de problèmes sociaux, économiques, etc. Au lieu de trouver en face quelqu'un qui les écoute, ils ont trouvé en face des fusées et des kalachnikovs, donc la mort, les balles. Avant que j'aie 23 ans, je sais rien de 5 octobre 88. Moi-même, je suis algérien, je suis né, j'ai grandi, j'ai vécu en Algérie, je connais tous les détails de l'Algérie, mais je savais rien parce que personne ne m'en parle. Généralement, on célèbre le jour de l'indépendance, le 5 juillet 62. Mais en fait, l'Algérie contemporaine a commencé le 5 octobre 1988. Malheureusement, cette date est souvent oubliée ou passée sous silence. On le connaît très peu. Donc c'était un secret de l'histoire, c'était un secret de famille. Et c'est ce moment-là qui m'a interpellé. J'ai commencé à réfléchir. Et depuis le début des années 2000, ça commence à revenir dans ma tête, à réfléchir pourquoi le 5 octobre et pourquoi on le cache, pourquoi on le sait pas. Donc ça revient avec des années de réflexion que je suis arrivé à écrire ce roman à la fin du Sahara.
Maintenant parlons de ce roman, puisque dès le début, on découvre le corps d'une femme qui a été assassinée d'un coup violent sur la tête. C'était une chanteuse qui travaillait à l'hôtel Sahara, qui donne donc son titre à votre roman. Est-ce que, en effet, l'écrivain que vous êtes a été inspiré par une histoire qui s'est réellement passée?
Tout à fait. Je suis né, j'ai grandi dans une petite ville du sud algérien. Il y a uniquement un seul hôtel, c'est l'hôtel de Sahara. Donc je pars d'un fait réel, le meurtre d'une jeune chanteuse qui s'est passé dans 1988, qui constitue un signe annonciateur que quelque chose va arriver plus tard. Donc j'ai dit, tiens, cette fille m'intéresse. Cette fille, cette femme, son destin m'intéresse. Je suis toujours intéressé par les femmes parce que j'étais toujours aidé par les femmes. Donc à partir de ce fait divers, si vous voulez, je voulais écrire toute une histoire d'un pays parce que le roman commence par la découverte du corps d'une jeune chanteuse et le roman se termine par un autre corps, cette fois celui d'un pays. Donc je commence par l'assassinat d'une fille et on découvre à la fin, il y a tout un pays qui a été assassiné en 1988.
La fin du Sahara, c'est un roman féministe ?
Moi-même, je suis féministe. Parfois, c'est étonnant de dire qu'il y a un homme féministe, mais moi, j'étais sauvé par des femmes.
Merci beaucoup, Saïd Katibi. Et je rappelle le titre de votre roman, La fin du Sahara, paraît dans une traduction de l'arabe par Lofty Nia, dans la collection Série Noire, chez Gallimard.
Et vous pourrez retrouver Saïd Katibi tout à l'heure sur RFI avec Catherine Fruchon-Toussaint à partir de 13h30 TU. Pour le moment, il est presque 14h ici à Paris. Dans quelques minutes, le Grand Journal International. Et puis dans une demi-heure, Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Clotilde Dumay.
Et à la une aujourd'hui.
Plus de 7 millions de déplacés en République démocratique du Congo. Bilan de la rapporteuse spéciale des Nations Unies qui achève un déplacement d'une dizaine de jours dans le pays. Et puis le Mauritanien Sidi Ould Tah, élu président de la Banque africaine de développement, il prendra ses fonctions le 1er septembre. Nous verrons que de nombreux défis l'attendent.
Et rendez-vous donc à midi en temps universel. En attendant, un tout petit peu de musique sur RFI. Crazy, Noé et Toumani, c'est dans la playlist à écouter.
Yeah, yeah. Quand j'invite, on se demande pas qui paye. Je suis au combo club avec une body, hey. Je regarde l'heure, c'est toujours money time. Money. Mais je suis dans le rush comme l'était Jackie, hey. Je travaille pour plus regarder mon compte. Pour l'instant, je mange encore ce qui donne boule au ventre. La vie sont synonymes, c'est marathon. Les menteurs se font rattraper par la honte. J'aime trop ma ville, j'investis mon temps pour créer des projets qui font naître des jobs. Hey. T'entends ma voix même quand y'a des pubs. Bruxelles n'est pas fun si t'es un crisiphobe. Je vois le rap comme une vraie thérapie ou comme l'amour qui accompagnera mes nuits. Thérapie. Si tu penses détenir la vérité, quand on se voit pas, dis-moi pourquoi tu cries. C'est ça ma vie, pourquoi tu cries? Je viens du pays qui soutient Noé et son gars. Et mon gars Toumani, je me donne les moyens et je fais pas la victime depuis tout petit. Hey, Golden et Chris, toi ni toi et Kani, Chine et le D, Chine et le D. C'est ça ma vie, c'est ça ma vie, c'est ça ma vie, c'est ça ma wa. Je viens du pays qui soutient Noé et son gars Toumani. Et mon gars Toumani, je me donne les moyens et je fais pas la victime depuis tout petit. Hey, Golden et Chris, toi ni toi et Kani, Chine et le D, Chine et le D. C'est ça ma vie, c'est ça ma vie. C'est ça, solo dans une taverne, triste pour les hypocrites et les barbicanes, le Congo.
Crazy, Noé et Toumani dans la playlist de RFI. Restez avec nous dans un instant, l'actualité internationale.
80% de sont les caps, maintenant j'ai grandi et j'aime toujours les maths.
Religion du monde,
Véronique Guémard.
Qu'est-ce que le jainisme ? Une religion, une philosophie née en Inde il y a plus de 2500 ans qui ne reconnaît pas de dieu créateur et dont le modèle est la parfaite conscience humaine, l'incarnation de l'ascétisme. Les adeptes sont les jains et leur modèle, la non-violence et le respect de tout être vivant.
Religion du monde avec Véronique Guémard.
Dimanche à partir de 10h10 TU.
RFI.